6. Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa sur la joue, dans le cou, sur le front, sur le nez, sur les lèvres, répétant sans cesse « Mes jambes, Roland, tu vois ça? Je peux marcher, je peux courir, j'ai retrouvé mes jambes, gloire à Dieu et à tous les saints, j'ai retrouvé mes jambes !»«
Que cela te soit doux, mon cœur, » répondit Roland. Adopter le patois du lieu dans lequel il se trouvait était un de ces vieux tours, ou la force de l'habitude peut-être. Dans le cas présent, c'était le parler de la Cala. Il se dit que s'il passait plus de temps à New York, il ne tarderait pas à brandir son majeur au taxi. Mais je resterai toujours un étranger. Je ne sais même pas dire aspirine. Chaque fois que j'essaie, ça sort de travers. Elle lui prit la main, la tira vers le bas avec une force surprenante et la posa sur son tibia.
Tu sens ?
Dit-elle d'une voix impérieuse. Je veux dire, ça n'est pas dans mon imagination, pas vrai ? Roland éclata de rire. Est-ce que tu n'es pas venu vers moi en courant comme si tu avais des ailes accrochées aux jambes, comme Hermès ?
Oui, Suzanne, dit-il, en posant sa main gauche, celle intacte, sur sa jambe gauche, à elle, une jambe, deux jambes, avec un pied au bout de chacune.
Il fronça les sourcils. Il va falloir qu'on trouve des chaussures, en fait.
Pourquoi ? C'est un rêve, c'est forcément un rêve !
Elle le regarda sans ciller, doucement, il vit son sourire s'effacer.
Non ! T'es sérieux ?
On est allé Vadash. On est vraiment ici. Si tu te fais une coupure au pied, Mia, tu l'auras demain matin au réveil, près du feu de camp. Ce nom lui était venu presque par inadvertance, presque. À présent, tous les muscles contractés, il attendit de voir si elle allait relever l'erreur. Si oui, il s'excuserait et dirait qu'il était passé directement au Vahadash après un rêve dans lequel apparaissait quelqu'un qu'il avait connu longtemps auparavant, bien qu'il n'y eût qu'une seule femme d'importance dans son passé, après Suzanne Delgado, et que son nom ne fut pas Mia. Mais le fait est qu'elle ne remarqua pas son lapsus, ce qui ne surprit pas beaucoup Roland, parce qu'elle s'apprêtait à se lancer dans une de ses expéditions de chasse, en tant que Mia, quand le Carmen avait résonné. À la différence de Suzanne, Mia avait des jambes. Elle se repaît de mes succulents dans une salle de banquet, elle discute avec tous ses amis, elle n'est allée ni à Morehouse, ni dans aucune autre maison, et elle a des jambes. Alors celle-ci a des jambes. Celle-ci est ces deux femmes à la fois, bien qu'elle ne le sache pas. Soudain, Roland se surprit à espérer qu'il ne rencontrerait pas Eddie. Car si Susanna ne sentait pas forcément la différence, lui la sentirait sans doute, et ce serait de mauvais augure. Si Roland avait pu faire trois vœux comme le petit prince dans un conte pour enfants, en cet instant, ces trois vœux se résumeraient à un seul. Régler cette affaire à Calabrian Sturgis avant que la grossesse de Susanna, la grossesse de Mia, ne devienne flagrante. Faire face aux deux fronts en même temps serait délicat, pour ne pas dire impossible. Elle le fixait d'un air interrogateur, les yeux ronds. Non pas parce qu'il l'avait appelé par un nom qui n'était pas le sien, mais parce qu'elle attendait ses consignes. « C'est ta ville, dit-il. Je voudrais voir la librairie et le terrain vague. » Il marqua une pause. « Et la rose ? Tu peux m'y emmener. » « Eh bien, répondit-elle en balayant les alentours du regard, c'est ma ville, aucun doute là-dessus, mais la deuxième avenue ne ressemble vraiment pas à ce qu'elle était du temps où d'État prenait son pied à faire ses courses chez Masses. » « Ça signifie que tu ne saurais pas retrouver la librairie et le terrain vague. » Roland était déçu, mais pas désespéré, loin de là. Il trouverait une solution. Il y en avait toujours une.
« Oh, de ce côté-là, pas de problème, les rues n'ont pas changé. New York est une sorte de grillage, Roland, avec les avenues qui courent dans un sens et les rues dans l'autre. C'est du gâteau, suis-moi. »
Le feu était repassé sur un temps des piétons, mais après un bref coup d'œil, Susanna prit Roland par le bras et ils traversèrent la 54e. Malgré ses pieds nus, Susanna avançait courageusement. Les bâtiments étaient étroits et bourrés de boutiques exotiques. Roland ne pouvait s'empêcher d'écarquiller les yeux, mais son manque d'attention ne lui faisait guère courir de grands risques. Les trottoirs avaient beau être bondés, personne ne leur entrait dedans. Cependant, Roland entendait les talons claquer et voyait les ombres projetées par les silhouettes passant devant les vitrines éclairées.
« On y est presque, » se dit-il. « Si la force qui nous a amenés ici était un peu plus puissante, on y serait déjà. » et il comprit soudain que cette force allait peut-être grandir, si Callahan disait vrai au sujet de cette chose cachée sous le plancher de son église. À mesure qu'ils approcheraient de cette ville et de la source de la chose qui faisait saint, Susanna lui pinça le bras. Roland s'immobilisa immédiatement. « C'est à cause de tes pieds ? » demanda-t-il.
« Non, »
répondit-elle. Et Roland lut la peur dans son regard.
« Pourquoi fait-il si noir ?»«
Susanna, c'est la nuit. » Et elle lui secoua le bras avec impatience.
« Je sais bien, je ne suis pas aveugle, tu ne... »
Elle hésita.
« Tu ne le sens donc pas ?»
Roland se rendit compte que si. Pour commencer, l'obscurité sur la deuxième avenue n'était pas une obscurité complète. Le pistolero ne comprenait toujours pas la prodigalité avec laquelle ces gens de New York dilapidaient ce qui était considéré comme extrêmement précieux à Gilead. Le papier, l'eau, l'huile raffinée, la lumière artificielle. Notamment la lumière, elle était partout. Il y avait la lueur des vitrines, bien que la plupart des boutiques fussent fermées, les devantures restaient allumées. L'éclat pur et dur encore d'un vendeur de Popkins du nom de Blimpies. Et pour couronner tout ça, ces étranges lampes électriques oranges qui semblaient inonder l'air même de la lumière. Pourtant, Susanna avait raison. L'air était imprégné d'une noirceur en dépit des réverbères oranges. Elle paraissait envelopper les gens qui passaient dans la rue. Ce qui lui fit penser à ce qu'Eddie avait dit un peu plus tôt. « Tout est en train de virer au 19. » Mais cette obscurité qu'il sentait plus qu'il ne la voyait n'avait rien à voir avec le 19. Il fallait soustraire 6 pour comprendre ce qui se passait ici. Et pour la première fois, Roland crut ce que lui avait dit Callahan. « La 13e noire, dit-il.
« Quoi ?
C'est elle qui nous a amenés ici, qui nous a envoyés Vahadash, et on la sent tout autour de nous. Ce n'est pas pareil que quand j'ai volé dans le pomelo, mais... ça y ressemble.
Ça me paraît mauvais, dit-elle à voix basse.
C'est mauvais. La 13e noire était sans doute l'objet le plus terrifiant de l'époque d'Elde qui avait subsisté jusqu'à nos jours. Non pas que l'arc-en-ciel date de ce temps-là, je suis sûr qu'il existait bien avant que...
Roland ! Hey, Roland ! Suze !
Ils levèrent la tête, et contrairement à l'inquiétude qu'ils avaient ressentie quelques minutes auparavant, Roland se sentit immensément soulagé de voir apparaître non seulement Eddie, mais aussi Jake et Otey. Ils se trouvaient à une trentaine de mètres environ. Eddie faisait signe de la main. Susanna se mit à son tour à faire des signes surexcités. Avant qu'elle se précipite en courant, Roland la retint par le bras. « Fais attention à tes pieds. C'est pas le moment d'attraper une infection que tu rapporterais de l'autre côté. » Ils optèrent pour un compromis et avancèrent d'un pas rapide. Eddie et Jake, qui avaient tous deux des chaussures, vinrent à eux en courant. Les passants s'écartaient de leur chemin sans les voir, sans même interrompre leur conversation, constata Roland. Puis il vit que ce n'était pas tout à fait le cas. Il aperçut un petit garçon, 2-3 ans tout au plus, marchant d'un air déterminé aux côtés de sa mère. La femme semblait n'avoir rien remarqué, mais au moment où Eddie et Jake passèrent près d'eux, en coup de vent, le petit garçon ouvrit de grands yeux ébahis, puis il tendit la main comme pour caresser Otey au passage. Eddie dépassa Jake et les rejoignit le premier. Il tint Susanna à bout de bras et la contempla. Roland se dit que son expression rappelait à s'y méprendre celle du bon vin.
« Alors, qu'est-ce que t'en dis, trésor ?»
demanda Susanna d'une voix nerveuse, comme une femme qui rentrerait un soir auprès de son mari avec une nouvelle coiffure complètement démentielle.
« Il y a du progrès, aucun doute, » fit Eddie. « Je t'aime même sans elles, mais elles sont plutôt pas mal, je dirais même superbes. D'où Jésus ? Maintenant, tu me dépasses de 5 centimètres. »
Constatant qu'il disait vrai, Susanna éclata de rire. Otey se mit à renifler cette cheville, qui n'était pas là la dernière fois qu'il avait vu cette femme, puis il rit à son tour. C'était un drôle de son, assez proche de l'aboiement, mais très nettement un rire.
« J'aime bien tes jambes, Suze, » fit Jake.
Et la dimension artificielle du compliment fit de nouveau rire Susanna. Le garçon ne le remarqua pas, car déjà il interrogeait Roland.
« Tu veux voir la librairie ?»«
Il y a quelque chose à voir. » Le visage de Jake s'assombrit.
« En fait, pas vraiment. Elle est fermée.
J'aimerais voir le terrain vague si on a le temps avant d'être renvoyé, dit Roland. Et la rose?
Ça fait mal? Demanda Eddie à Susanna en l'observant très attentivement.
Pas du tout! Je me sens bien, dit-elle en riant. Très bien!
T'as l'air différente.
Tu m'étonnes, lança-t-elle en exécutant un petit pas de gigue, pieds nus. Ça faisait des lunes et des lunes qu'elle n'avait plus dansé, mais l'extase parfaite qu'elle ressentait compensait un éventuel manque de grâce. Une femme vêtue d'un tailleur et balançant une mallette fonça droit sur leur petit groupe de vagabonds en haillon avant de virer subitement de bord, descendant même sur la chaussée pour les éviter.
« Tu m'étonnes que je suis différente. J'ai des jambes !»«
Comme dirait la chanson, » fit Eddie.
« Hein ?»«
Peu importe, » dit-il en lui passant le bras autour de la taille. Mais Roland vit qu'il lui adressait de nouveau ce regard interrogateur et perspicace. Mais avec un peu de chance, il va laisser couler, espéra Roland. Et c'est ce que fit Eddie. Il embrassa Susanna sur le coin de la bouche et se tourna vers Roland.
« Alors, il paraît que tu veux voir ce fameux terrain vague et cette rose encore plus fameuse. »«
Eh bien, moi aussi. Après toi, Jake. »
7.
Jake leur fit descendre la deuxième avenue, s'arrêtant juste une seconde pour qu'ils jettent un œil à l'intérieur du restaurant spirituel de Manhattan. Dans cette boutique-là, point de gaspillage de lumière, et pas grand-chose à voir non plus, de toute façon. Roland espérait pouvoir apercevoir la pancarte de menu, mais on l'avait retirée. Lisant dans son esprit avec cette simplicité qu'ont les gens qui partagent un kef, Jake lui dit
« Il la change probablement tous les jours. »
« Peut-être, » acquiesça Roland.
Il resta quelques instants à scruter l'intérieur à travers la vitrine, et ne vit que des étagères dans l'ombre, quelques tables et le comptoir qu'avait mentionné Jake, celui derrière lequel les vieux types buvaient leur café en jouant à l'équivalent dans ce monde des Castles de celui de Roland. Rien à voir, mais quelque chose à ressentir, même à travers la vitre. Le désespoir et le deuil. Si ça avait été une odeur, elle aurait été amère, un peu rance. L'odeur de l'échec. Ou peut-être celle des rêves jamais réalisés. Ce qui était le parfait détonateur pour un homme comme Enrico il Roque Balassar.
T'en as assez vu ? Demanda Jake.
Oh oui, on y va.
8.
Pour Roland, le trajet du coin de la 2e avenue et de la 54e rue au croisement de la 56e fut comme un voyage en pays inconnu, un pays auquel il n'avait qu'à moitié cru jusqu'à présent. « Et comme ce doit être plus étrange encore pour Jake, » se dit-il. Le clochard qui avait demandé un quarter à Jake avait disparu, mais le restaurant près duquel il s'était assis était toujours là. « Mama Chocho. » Il se trouvait au coin de la 59e. Quelques mètres plus loin se trouvait le disquaire, « Tower of Power ». Il était toujours ouvert, selon une horloge suspendue qui donnait l'heure en gros point lumineux. Il était 8h14 du soir. Un fracas se déversait dehors par la porte ouverte, de la guitare et de la batterie, de la musique de ce monde. Elle lui rappela la musique sacrificielle jouée par les gris dans la cité de Ludd, et quoi d'étonnant à ça? Cette ville était Ludd sous une forme tordue, d'un autre où et d'un autre quand, mais Ludd tout de même, il en était certain.
« C'est les Rolling Stones, » dit Jack, « mais pas le même morceau que le jour où j'ai vu la rose. » Ce jour-là, c'était « Paint in Black ».
Et celle-là, tu ne la reconnais pas ? Demanda Eddie.
Si, mais impossible de me souvenir du titre.
Oh, tu devrais pourtant. C'est « 19th Nervous Breakdown ».
Susanna s'immobilisa, regarda autour d'elle.
Jake ? Le garçon acquiesça. Il a raison.
Pendant ce temps, Eddie avait repêché un morceau de journal près de la barrière de sécurité devant la porte de Tower of Power, une page du New York Times pour être précis.
Mon chou, ta maman t'a jamais appris que se rouler dans le caniveau n'est pas l'occupation préférée des gens comme il faut ?
Demanda Susanna. Eddie ignora la remarque.
Regardez ça, regardez !
Roland se pencha le plus près possible, s'attendant presque à apprendre l'arrivée d'un nouveau fléau. Mais il n'y avait là rien d'aussi monstrueux, enfin, à première vue.
« Lis-moi ce que ça dit, » demanda Roland. « Les lettres n'arrêtent pas de danser, je pense que c'est parce qu'on est Varadash, pris entre...
« Les forces rhodésiennes maintiennent leur emprise sur les villages du Mozambique, » lut Jake. « Deux attachés de Carter annoncent une économie de plusieurs milliards sur le plan d'aide. » Et là, en bas, la Chine révèle que le tremblement de terre de 1976 est le pire que le pays ait connu depuis 4 siècles.
Et puis aussi, qui c'est ce Carter ? Demanda Susanna. Est-ce qu'il était président avant Ronald Reagan ?
Elle accompagna les deux derniers mots d'un énorme clin d'œil. Jusqu'ici, Eddie n'avait pas réussi à la convaincre que Reagan avait été élu. Elle ne le croyait pas. Jake non plus, quand il lui disait que, même si ça avait l'air dingue, ça n'était pas forcément impossible, vu qu'il avait été gouverneur de Californie. Ce à quoi Susanna avait répondu en éclatant de rire et en hochant la tête, comme si elle lui donnait une bonne note en expression écrite. Elle savait qu'Eddie avait dressé Jake pour qu'il soutienne son histoire à dormir debout, alors pas question de se laisser piéger. Elle était prête à voir Paul Newman élu président, peut-être même Henry Fonda, qui avait tout à fait le physique du rôle dans « Point limite ». Mais l'acteur de la série Les jours de la vallée de la mort, plutôt mourir.
Oublie Carter, fit Eddie. Regardez la date.
Roland essaya de la lire, mais les mots dansaient toujours. Au moment où il voyait apparaître les grandes lettres qu'il parvenait à lire, tout se dissolvait de nouveau en charabia.
Alors, cette date au nom de ton père. Le 2 juin, dit Jake.
Il regarda Eddie.
Si le temps est le même ici que de l'autre côté,
est-ce qu'on ne devrait pas être le 1er juin ?
Mais il n'est pas le même, fit Eddie avec détermination. Le temps passe plus vite de ce côté-ci. La partie continue et le chrono tourne vite.
Roland réfléchit une seconde. Si nous revenons ici, chaque fois la date aura avancé, n'est-ce pas ?
Eddie hocha la tête. Roland reprit, pour lui-même autant que pour les autres. Pour chaque minute que nous passons de l'autre côté, du côté de la Cala, c'est 1 minute et demie qui passe ici, peut-être même 2.
Non, pas 2, fit Eddie. Je suis sûr que ça ne passe pas double.
Mais le regard gêné qu'il posa sur la date du journal suggérait plutôt qu'il n'en était pas sûr du tout.
« Admettons que tu as raison, » dit Roland. « Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à avancer. »«
Jusqu'au 15 juillet, » ajouta Susanna, « quand Balassar et ses gorilles passeront aux choses sérieuses. »«
Peut-être qu'on devrait laisser ces types de la Cala se débrouiller avec leurs affaires, » suggéra Eddie. « Ça ne me fait pas plaisir à dire, Roland, mais c'est peut-être ce qu'on devrait faire. »«
On ne peut pas faire une chose pareille, Eddie. »
Et pourquoi ?
Parce que Callahan a la 13e noire, répondit Susanna. Et notre aide est le prix à payer pour l'obtenir, et il nous la faut.
Roland secoua la tête. Il la donnerait, de toute façon. Je croyais avoir été clair à ce sujet. Il est terrifié.
Ouais, confirma Eddie. C'est aussi l'impression que j'ai eue.
Nous devons les aider, car c'est la voix d'Eld, dit Roland à Susanna. Et parce que la voix du cas est toujours la voie du devoir.
Il crut voir une étincelle au fond de ses yeux, comme s'il avait dit quelque chose de drôle. Il se dit que ça devait être le cas, mais ça n'était pas Susanna que cela amusait. C'était soit Detta, soit Mia. La question était laquelle des deux ? Ou bien les deux, qui sait ?
« Je déteste l'ambiance ici, » dit Susanna, « ce sentiment de noirceur. »«
Ça ira mieux au terrain vague, » glissa Jake.
Il reprit son chemin et les autres le suivirent.
« La rose arrange tout, tu vas voir. »
9. En traversant la 50e, Jake pressa le pas. Passé la 49e, il se mit à trottiner. Au croisement de la 2e avenue et de la 48e rue, il courait franchement. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il fut aidé par un feu passé piéton, mais ce dernier passa au rouge dès qu'il eut atteint le trottoir d'en face.
« Jake, attends un peu !»
lui lança Eddie. Mais Jake ne ralentit pas. Peut-être ne le pouvait-il pas. Eddie sentait bien cette attraction étrange. Roland et Susanna aussi. Il y avait comme une mélodie qui montait dans l'air douce et assourdie. Tout le contraire de cette obscurité qui les entourait de toute sa laideur. La petite mélodie rappela à Roland des souvenirs de Mégis et de Suzanne Delgado, des souvenirs de baisers échangés sur un tapis d'herbe fraîche. Susanna se revit petite avec son père, grimpant sur ses genoux et posant la peau douce de sa joue contre le tissu rugueux de son pull à lui. Elle se rappela comment elle fermait les yeux et inspirait profondément cette odeur qui était la sienne, et rien que la sienne, ce mélange de tabac de pipe et de vétiver. Et la pommade confrit qu'il se frottait sur les poignets depuis que les premières atteintes de l'arthrite l'avaient saisi à l'âge scandaleux de 25 ans. Pour elle, la signification de ces parfums mêlés était « tout va bien ». Quant à Eddie, il se remémora une escapade à Atlantic City quand il était tout petit, 5 ou 6 ans tout au plus. C'était leur mère qui les avait emmenés dans l'après-midi. Elle et Henry étaient allés acheter des glaces. Madame Dean avait montré du doigt la promenade de planches et avait dit « Tu vas poser tes fesses là-bas, monsieur le dur, et tu vas me faire le plaisir de ne pas bouger jusqu'à ce qu'on revienne. » C'est ce qu'il avait fait. Il aurait pu rester assis là toute la journée à contempler la plage grise qui descendait doucement jusqu'à l'océan. Les mouettes s'interpellaient, tournoyant juste au-dessus de l'écume. Chaque fois qu'une vague se retirait, elle laissait derrière elle une large bande brune et glissante qui miroitait tellement qu'il avait du mal à la regarder sans plier les yeux. Le bruit du ressac était assourdissant, pourtant il le berçait. « Je pourrais rester ici pour toujours, » s'était-il dit. « Je pourrais rester ici pour toujours parce que c'est beau, paisible, on est bien. Ici, tout est bien. » Et c'est ce qu'il ressentait le plus vivement. Tous les 5. Car Othé n'était pas en reste. Le sentiment de quelque chose de beau et de merveilleusement bien. Sans même se concerter du regard, Roland et Eddie saisirent Susanna par les coudes. Ils soulevèrent ses pieds nus du sol et la portèrent au-dessus du trottoir. Au coin de la 47e, ils allaient à contresens de la circulation, mais Roland brandit la main dans la lumière des phares et cria « Allez ! Arrêtez-vous au nom de Gilead !» Et ils s'arrêtèrent. Il y eut des crissements de freins, le choc mat d'un pare-choc avant qui emboutit un pare-choc arrière, des tintements de bris de verre qui dégringolent, mais ils s'arrêtèrent. Roland et Eddie traversèrent sous les feux des phares et la cacophonie des klaxons. Susanna entre eux, ses pieds retrouvés et déjà très sales, suspendue 10 centimètres au-dessus de la chaussée. Ce sentiment de bonheur et de bien-être alla en s'accentuant lorsqu'ils approchèrent du croisement de la 2e avenue et de la 47e rue. Roland sentit la petite musique de la rose battre à tout rompre dans ses veines. « Oui, pensa-t-il, par tous les dieux, oui, nous y voilà. Peut-être pas directement à la porte vers la tour sombre, mais à la tour elle-même. Grand Dieu, quelle force est là, cette attraction !» Casbert, Alain, Jamie, si vous pouviez voir ça !» Jake se tenait au croisement de la 2e avenue et de la 46e rue, et il contemplait une palissade de bois d'environ 2 mètres de haut. Les larmes ruisselaient sur ses joues. De l'obscurité, derrière la barrière, montait une mélodie forte et harmonieuse, un chœur de voix, chantant une même note à l'unisson. « Voici le oui, » disaient les voix, « voici le possible, voici le bon tournant, l'heureuse rencontre, la fièvre qui tombe juste avant l'aube et qui vous rend votre calme, voici le vœu exaucé et l'œil compréhensif, voici la tendresse qu'on vous a donnée et que vous avez appris à transmettre, voici le bon sens et la clarté que vous croyez perdue. Ici, tout est bien. » Jake se tourna vers eux. « Vous sentez ?» demanda-t-il. « Vous le sentez ?» Roland acquiesça, ainsi qu'Eddie. « Suze, c'est presque la chose la plus merveilleuse du monde, n'est-ce pas ?» répondit-elle. « Presque, » pensa Roland. Elle a dit « presque ». Et le fait qu'elle se caressait le ventre en disant cela ne lui échappa pas non plus. 10. Toutes les affiches se trouvaient bien là, comme dans le souvenir de Jake. Olivia Newton-John au Radio City Music Hall, Jay Gordon Liddy et les Inepses, dans une salle du nom du Mercury Lounge, un film d'horreur intitulé « La guerre des zombies », interdiction d'entrée, mais ça, ça n'est pas pareil, dit-il en désignant un graffiti rose foncé. Il est de la même couleur, et vu la forme des lettres, on peut penser qu'il a été fait par la même personne, mais la dernière fois que je suis venu, c'était un poème sur la tortue. « Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde. » Puis venait un truc sur le fait de suivre le rayon. Eddie s'approcha et lut à haute voix. « Oh, Susanna mio, ma chérie, divisée, a garé son semi-remorque dans son cochon du sud, l'année 99. » Il se tourna vers Susanna. « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Suze? Une idée ?» Elle secoua la tête. Elle avait les yeux écarquillés par la peur, se dit Rant. Mais laquelle de ces femmes avait peur? Impossible à dire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'Odetta Susanna Holmes était divisée depuis le début, et que Mio ressemblait beaucoup à Mia. La mélodie montant de l'obscurité derrière la palissade rendait toute réflexion difficile. Il voulait se rendre à la source de cet air tout de suite. C'était pour lui un besoin, comme pour un homme mourant de soif d'aller vers l'eau. Allons-y, dit Jake, on peut l'escalader facilement. Susanna baissa les yeux vers ses pieds nus et sales et recula d'un pas. « Pas moi, je ne peux pas, pas sans chaussures !» Ce qui paraissait parfaitement logique, mais Roland supposa qu'il y avait autre chose. Mia ne voulait pas entrer là. Mia sentait que quelque chose d'horrible pourrait se produire si elle entrait. Pour elle et pour son bébé. L'espace d'une seconde, elle fut sur le point de forcer le destin, de laisser la rose s'occuper à la fois de la chose qui grandissait en elle et de cette nouvelle personnalité difficile et si forte que Susanna avait embarqué avec les jambes de Mia. « Non, Roland. » C'était la voix d'Alain, Alain qui avait toujours été le plus fort, avec le Shining. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment. »« Je reste avec elle, » dit Jake. Dans sa voix perçait un regret immense, mais pas une once d'hésitation. Et Roland ressentit de plein fouet son amour pour ce garçon qu'il avait laissé mourir. C'est de cet amour que parlait le chant de cette vaste voix. Il l'entendait bien. Parlait-il aussi du simple pardon plutôt que du chemin chaotique de l'expiation? Oui, c'est en tout cas ce qui lui semblait. Non, dit Susanna, vas-y mon chou, ça va aller. Elle leur adressa un sourire à tous. « C'est aussi ma ville, vous savez, je peux me prendre en charge, de plus. » Elle baissa la voix comme pour leur confier un grand secret. « Il me semble qu'on est, comme qui dirait, invisible. » Eddie la contempla une fois de plus avec cet air intrigué, comme se demandant comment elle pouvait ne pas les accompagner, pieds nus ou pas pieds nus. Mais cette fois, Roland ne s'en inquiéta pas. Le secret de Mia était en sécurité, du moins pour le moment. L'appel de la rose était trop fort pour qu'Eddie réussisse à penser à quoi que ce soit d'autre. Il n'en pouvait plus d'attendre. « On devrait rester groupés, » fit Eddie avec réticence. « Comme ça, on ne se perdra pas au moment de rentrer. C'est toi-même qui l'as dit, Roland. »« Quelle distance d'ici à la rose, Jake ?» demanda Roland. Avec cet air qui lui chantait aux oreilles comme une brise, il lui était difficile de parler, de réfléchir aussi. Elle est à peu près au milieu du terrain vague, disons 50 mètres, peut-être moins. À la seconde où on entend le carillon, dit Roland, on se précipite vers la palissade, vers Susanna, tous les trois, d'accord? D'accord, fit Eddie. Tous les trois avec Otte, ajouta Jake. Non, Otte reste avec Susanna. Jake fronça les sourcils, visiblement peu enchanté par cette perspective. Roland s'y attendait. « Jake, ôté aussi et pieds nus. Et tu n'as pas dit qu'il y avait du verre brisé de l'autre côté ?»«
Ouais, ouais, ouais. »
D'un ton réticent, se faisant presque prier. Puis il mit un genou en terre et planta son regard dans les yeux cerclés d'or d'ôté.
« Tu restes avec Susanna, ôté. »«
Ôté este. »«
Ôté reste. » Jake acquiesça. Il se releva, se tourna vers Roland et hocha la tête.
« Suze ?» demanda Eddie.
« Tu es bien sûr ?»«
Oui, oui, » fit-elle avec conviction, sans hésiter une seconde.
Roland était désormais presque certain que c'était Mia qui dirigeait tout, qui tirait les ficelles et qui tenait les manettes. Presque. Même maintenant, il n'était pas catégorique. L'air de la rose lui rendait toute réflexion impossible, hormis cette certitude que tout, oui, tout, pourrait aller bien. Eddie acquiesça, l'embrassa au coin de la bouche, puis s'avança vers la palissade ornée de son étrange poème.
« Oh, Susanna mio, ma chérie divisée !»
Il entrelaça ses doigts pour en faire un marchepied, Jake prit appui, se souleva dans l'air et disparut comme un souffle de vent.
« À qui ?»
cria Otte. Puis il se tut et s'assit aux pieds nus de Susanna. « À ton tour, Eddie, » fit Roland. Il entrelaça les doigts qui lui restaient, comptant faire pour Eddie ce que ce dernier avait fait pour Jake, mais Eddie attrapa simplement le rebord de la palissade et sauta par-dessus. Le camé que Roland avait rencontré pour la première fois dans un avion atterrissant à Kennedy Airport aurait été bien incapable d'une chose pareille. « Restez où vous êtes, vous deux, » dit Roland. On aurait pu penser qu'il s'adressait à la femme et au bafouilleux, mais ses yeux étaient posés uniquement sur elle.
« On va très bien s'en sortir, » répondit-elle en se penchant pour caresser la fourrure soyeuse d'Otte. « Pas vrai, mon grand ?»«
Otte !»«
Va voir ta rose, Roland, tant que tu le peux encore. »
Roland lui adressa un regard pensif, puis attrapa à son tour le haut de la palissade. Il disparut en une seconde, laissant Susanna et Otte seuls au carrefour le plus animé et le plus vital de tout l'univers. 11. Il lui était arrivé d'étranges choses pendant qu'elle attendait. En venant près du disquaire Tower of Power, ils étaient passés devant une grosse horloge qui donnait alternativement l'heure et la température. 8h27, 22 degrés, 8h27, 22 degrés, 8h27, 22 degrés. Puis tout à coup, elle afficha 8h34, 22 degrés, 8h34, 22 degrés. Elle ne l'avait pas quitté du regard une seule seconde, elle l'aurait juré. Peut-être qu'il y avait un problème avec le mécanisme. Ça doit être ça, se dit-elle. Quoi d'autre, sinon? Rien du tout. Mais pourquoi tout paraissait-il soudain différent? Tout avait l'air différent. C'est peut-être mon mécanisme à moi qui a un problème. Otte se mit à gémir et tendit son long cou vers elle. Et c'est alors qu'elle comprit pourquoi tout lui paraissait différent. En plus d'avoir fait disparaître 7 minutes... Le monde avait retrouvé son ancienne perspective, une perspective qu'elle ne connaissait que trop bien. Avec un centre de gravité plus bas, elle était plus près d'Otte parce qu'elle était plus près du sol. Les mollets et les pieds splendides qu'elle avait découverts au bout de ses moignons en ouvrant les yeux à New York avaient disparu. Comment était-ce arrivé? Et quand? Pendant ces 7 minutes manquantes? Otte gémit de nouveau. Cette fois-ci, il s'agissait presque d'un aboiement. Il regardait derrière elle dans le sens opposé. Elle se retourna. Une demi-douzaine de personnes traversaient la 46e rue et s'avançaient vers eux. 5 d'entre elles étaient normales. La 6e était une femme blanche vêtue d'une robe tachée de mousse. Ses orbites étaient vides et noires. On aurait dit que sa bouche béante pendait jusque sur sa poitrine. Et sous les yeux de Susanna, un asticot vert rampa sur la lèvre inférieure. Ceux qui l'entouraient lui faisaient de la place, comme l'avaient fait les passants de la 2e avenue pour Roland et ses amis. Dans les deux cas, se dit Susanna, les promeneurs normaux avaient ressenti quelque chose de pas ordinaire et s'étaient écartés. Sauf que cette femme n'était pas Vahadash. Cette femme était morte.